Des livres RMC, Fred Hermel.
Bonjour, je suis très heureux de vous accueillir dans le 45e épisode du podcast littéraire de RMC, auquel je vous invite respectueusement à vous abonner. Nous n'aurions pas assez d'une émission pour citer toutes les vies qu'a eu mon invité du jour. Citons-en toutefois quelques-unes. Commerçant forain, enseignant, vigneron, parolier, auteur de plusieurs essais, il vient de publier son premier roman, Claude Tovel-Posternak et son livre La promesse de Leïba, qui vient de sortir chez Robert Laffont, sont aujourd'hui mes invités. Bonjour Claude.
Bonjour Fred.
Ça fait un sacré CV quand même. Hein.
Oui, ouais. C'est pas fini.
Ouais, je me disais que dans ce CV aussi bariolé qu'un tableau de Joan Miró, il ne manquait plus qu'un roman. Eh bien, le voici, votre premier roman.
Ça tombe bien.
Ça tombe bien, non ? Pourquoi pas entendu un âge honorable pour écrire un roman alors que vous avez une plume alors, fertile depuis très longtemps ?
Non, mais jeune, j'avais été pris en main par une papesse de l'édition qui s'appelait Françoise Verny. Et je me rappelle, le soir, le vendredi soir, j'allais chez elle à 20h, je sonnais, et 20 minutes plus tard, elle ouvrait la porte et je me retrouvais dans son salon. Elle était assise dans son grand fauteuil avec sa gauloise, à droite son verre de whisky, puis sa cendre qui tombait, et elle me parlait. Elle me disait, ah, ça c'est de la belle écriture, ça c'est de la belle plume, ah, ça écrit comme un dandy, mais ça donne rien. Et à l'époque, comme je faisais plein d'autres choses, je me suis dit, bon, elle ne va pas me casser. Hein. Et je suis passé à autre chose parce que j'avais envie de faire d'autres choses. Et je me suis dit, le jour où je le déciderai, je deviendrai moine. Et parce que l'écriture, c'est rentrer comme un moine dans un lieu qui est un lieu fermé. Et il était temps de devenir moine. Donc il était temps de retourner à des premiers amours qui étaient l'écriture. Alors j'avais écrit, c'est vrai, des essais, mais passer au roman, c'était autre chose. Voilà.
Un roman nécessite-t-il une forme de maturité ?
Apparemment, oui.
Dans votre cas.
Après, oui, mais bon.
Il y a des qui écrivent des romans à 15 ans.
Exactement. Chacun a sa propre histoire. Moi, mon histoire, c'est que j'avais envie de vivre, pour des raisons familiales d'ailleurs, plein de vie. Parce que comme je venais d'une famille où justement on nous avait privé de la vie, j'avais un devoir par rapport à cette vie. Cette vie devait être extraordinaire. C'est-à-dire, elle devait aller dans tous les sens. Donc. Il fallait écrire une nouvelle page, et cette nouvelle page, c'est un roman. Et donc, moi, j'avais besoin sûrement de cette maturité. Mais après, chacun raconte son histoire à sa façon. Et le moment est venu. Là, le moment était venu de raconter une histoire. En plus, le contexte politique aussi faisait que ce moment était d'autant plus important.
On va l'évoquer parce que c'est un livre qui parle beaucoup d'antisémitisme, de pogrom.
Oui.
On est dans une histoire qui commence dans la Russie impériale de 1886 et se termine aux États-Unis en 1941.
Oui.
Mais qui a plein de, on va dire, de coïncidences.
Oui.
Malheureuses, malheureusement,
oui, oui.
Avec l'actualité et
oui.
Ces dernières années pour le peuple juif. C'est une épopée. On peut le raconter ça. Ce livre oui. Est une épopée. D'ailleurs, est-ce que c'est le terme que j'utilise est-il bien pour. Est-il adéquat, épopée pour un thème.
Oui, oui, moi je pense que c'est une épopée, c'est un récit, comme diraient les critiques, un récit ample, puisque souvent ils emploient ce terme-là. Je dirais plutôt un conte, c'est un roman-conte, c'est-à-dire avec des personnages qui sont... Et j'ai voulu des personnages gentils, parce que la vie était extrêmement difficile, donc dans une vie difficile, autant avoir des personnages gentils. Donc les personnages sont gentils, vivent des moments douloureux. Et cette histoire s'inscrit dans une vraie histoire d'amour, c'est-à-dire d'un premier coup de foudre qui se passe à 7 ans entre un garçon qui s'appelle Leïba. Leïba est un petit garçon qui est élevé dans un domaine agricole dont le papa était analphabète, ce qui était rare pour un juif. Et ces domaines agricoles, peu de gens le savent, ce qu'on appelle en Nouvelle-Russie, c'est-à-dire en Ukraine aujourd'hui, le tsar avait créé 22 colonies juives agricoles. Donc, ce Leïba était issu de cette colonie juive agricole et était extrêmement brillant, puisque à 7 ans, c'est lui qui faisait la comptabilité du domaine. Et ce Leïba, brillant, incroyablement brillant, rencontre une fille de son âge, qui est née la même année que lui, en 1879. Alors, 1879, ce n'est pas une date neutre, puisque 1879, c'est la date où est né... un livre qui s'appelle « L'antisémitisme », c'est-à-dire le mot antisémitisme...
Qui a été créé
par
un auteur.
Qui s'appelle Wilhelm Marr, qui était un journaliste allemand qui a créé ce mot en 1879. Donc, ils naissent en 1879. Ils se rencontrent. Et Wilhelm Marr, juste un mot sur ce personnage, c'est un journaliste qui croyait à la Grande Allemagne, qui souhaitait que les Juifs repartent ou aillent en Palestine, et qui avait une particularité, c'est qu'il avait été marié à trois Juives. Donc, il écrit un livre qui s'appelle « L'antisémitisme ». Et à la fin de sa vie, il regrette ce livre, parce qu'il a fait une bombe et il ne se rendait pas compte qu'à tel point la bombe était forte.
Et elle continue à exploser.
La bombe continue à avoir des effets retards. Et à la fin de sa vie, il est seul. Il vit très difficilement. Il n'y a qu'un seul homme qui vient l'aider. Et cet homme s'appelle Moshe Zimmerman. Et cet homme, Moshe Zimmerman, a une particularité. C'est l'arrière-grand-père de Bob Dylan.
Ah oui, d'accord.
Voilà, donc les fils...
Bon, ça, c'est pas dans le livre, mais c'est quelque chose qu'on apprend.
C'est, en tout cas, le livre fait croiser beaucoup de fils, c'est-à-dire qu'il y a des fils qui viennent d'endroits divers et variés, et qu'en fin de compte, on se rend compte que la réalité est beaucoup, beaucoup plus forte que la fiction.
Alors, ça commence en Russie, ça finit aux États-Unis, comme je le disais, comme temps d'Ashkenazim.
Oui.
Alors, les Ashkenazim, on dit Ashkenaz en français. Pour ceux qui ne savent pas, qui sont les Ashkenazes dans le peuple juif?
Les Ashkenazes sont les Juifs qui ont vécu en Europe de l'Est et en particulier en Europe centrale. Ça allait de la Lituanie jusqu'à justement cette nouvelle Russie qui était l'Ukraine. Et avec des cultures différentes, parce que vous avez les Juifs allemands qui étaient l'aristocratie de la Yiddishkeit. Et puis, dans des milieux qui étaient des milieux plus difficiles, en particulier en Pologne, vous aviez des milieux extrêmement pauvres qui vivaient extrêmement difficilement. Et si on parle de Gromoklé, qui était une des colonies agricoles juives, c'était d'une saleté épouvantable. Ils vivaient dans des conditions extrêmement, extrêmement difficiles. Donc, j'ai essayé de redonner vie à cette Yiddishkeit, avec un pays qui a complètement disparu, c'est-à-dire un horizon qui a complètement disparu. Pour vous donner un ordre d'idée, en Ukraine, donc, cette nouvelle Russie, 1 500 000 juifs ont été tués par balle. C'est-à-dire que...
Vous l'appelez la Shoah par balle.
La Shoah par balle. C'est-à-dire, c'est un curé ukrainien qui a mis... qui a donné sens à la Shoah par balle, parce qu'on ne la connaissait pas. On connaissait Auschwitz, on connaissait le 1,5 million de morts à Auschwitz, mais on ne connaissait pas la Shoah par balle, que ce soit en Lituanie, en Pologne et en partie en Russie. Donc imaginez 1,5 million de personnes qui sont arrêtées chez eux, pour qui on crée des fosses. Dans ces fosses, on les tue et on les met à l'intérieur. Et ces fosses étaient tellement énormes qu'à la fin de la guerre en Lituanie, on mobilisait des juifs pour revenir faire les fosses, parce que les cadavres remontaient à la surface et les nazis ne voulaient surtout pas qu'on revoie ces cadavres.
Tout ce livre est marqué, alors c'est une belle histoire d'amour, mais il est aussi marqué de beaucoup de sang, beaucoup de douleur, et marqué par les pogroms, parce que là aussi c'est un mot qui vient d'Europe de l'Est.
Exactement. Le mot pogrom a été inventé à Odessa. En 1821. Alors, ça veut pas dire
en Ukraine aujourd'hui.
En Ukraine aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de massacre avant. Le peuple juif connaît depuis 2000 ans des massacres. Un des plus importants qui a donné le nom d'Holocauste, c'était au Moyen-Âge, pour fêter Richard Cœur de Lion qui venait d'être nommé roi. Les Londoniens ont massacré tous les juifs de Londres. Donc, les massacres étaient très anciens. Simplement, le mot pogrom a été écrit en 1821 à Odessa, lorsque des Grecs, et non pas des Cosaques, des Russes ou des Ukrainiens, des Grecs ont décidé de s'attaquer à la communauté juive d'Odessa, qui était extrêmement importante. Pour vous donner une idée, un tiers des habitants d'Odessa étaient juifs. Donc ils ont attaqué la communauté juive pour une seule raison, c'est que les juifs développaient un commerce de façon remarquable et en particulier commençaient à toucher au commerce des bateaux sur la mer Noire. Et les Grecs ne voulaient pas qu'on touche à ce type de commerce. Donc, ils ont prétexté la mort d'un archevêque en Turquie pour tuer les Juifs. Donc, le mot Odessa, le mot pogrom, qui veut dire violence barbare en russe, a été créé en 1821 pour un pogrom fait par des Grecs contre les Juifs.
De la même manière que le mot Shoah, en hébreu, signifie catastrophe.
Oui.
Mais la Shoah, c'est la catastrophe.
Oui.
Suprême.
Oui.
Voilà, donc il y a toujours un sens très, très, très.
Oui, oui. Alors après, on ne va pas rentrer sur le débat Shoah, Holocauste, Auschwitz, parce que.
Non, mais je veux dire simplement parce que
il y a des interprétations, en particulier de Sergio Agamben, qui lui réfute à la fois le mot holocauste et Shoah, puisque la Shoah, c'est une catastrophe qui vient de Dieu. Donc il préfère à ce terme, le terme d'Auschwitz, parce qu'Auschwitz est unique.
Et
quand on dit Auschwitz, on a tout compris, parce que c'est un massacre industriel, et il n'y a jamais eu de massacre industriel de cette taille.
Même si la présence de Dieu, j'ai oublié le nom de ce poète israélien qui a écrit « Harare à Auschwitz, ein Theologia ». Après Auschwitz, il n'y a plus de théologie.
Oui,
j'ai appris ça en cours d'hébreu.
Hein. Oui, il y a un très joli livre qui s'appelle « Le concept de Dieu après Auschwitz oui, » que vrai. Je vous recommande de lire.
Voilà. Leïba, donc, Leïba et Shana, ses deux enfants. Donc, Leïba, son père est paysan illettré,
oui.
Ce qui est particulièrement honteux pour
oui,
un juif.
Tout à fait.
Parce que le juif, peuple élu, oui. Peuple du livre,
oui.
La religion du livre.
Alors, la religion du livre.
Donc, c'est très grave pour lui. Et donc, il a un complexe qu'il ne veut pas faire subir à son fils.
Alors, c'est, paradoxalement, c'est un alphabète de conviction. C'est-à-dire que lui décide qu'il vaut mieux lire Dieu dans les champs, lire Dieu dans la nature. En vérité,
vous l'expliquez très bien dans le livre, d'ailleurs.
En vérité, c'est quelqu'un qui n'a pas lu Spinoza, mais qui est un spinoziste sans le savoir.
Pour lui, sa confrontation avec Dieu, elle n'est pas dans les livres, elle est dans la création.
Elle est dans la création, elle est dans la nature, elle est ce que Spinoza appelle la substance dans la nature. Donc, lui, il a ça à l'esprit. Alors, il sait pas lire, il ne sait pas écrire, mais il sait compter. C'est-à-dire que au bout de 10 ans, il quitte la colonie juive agricole avec son petit pécule, qui n'est pas grand-chose, et il rachète un petit domaine, et ce domaine devient le plus grand domaine agricole de Nouvelle-Russie au bout de 10 ans. Voilà.
Donc, son fils... Ah, c'est un surdoué, quoi.
Oui, c'est un surdoué.
On dirait aujourd'hui un HPI, mais oui. Un vrai. Pas oui, comme oui. Tous ces parents qui imaginent oui. Que parce que leur gamin est insupportable, il est surdoué. Lui, il est vraiment puissamment intelligent.
Non, il est extraordinairement intelligent. Et je reviens là au mot que vous aviez dit là, par rapport aux Juifs qui ont l'obligation de lire. Cette obligation vient du IIe siècle. C'est-à-dire au IIe siècle, le temple a été détruit par les Romains.
À Jérusalem.
À Jérusalem, c'est-à-dire que...
C'est ce qui a donné, ce qui reste aujourd'hui, ce qu'on appelle le Kotel, c'est-à-dire le mur occidental.
Le mur occidental du deuxième temple. Donc,
ce qu'on appelle aujourd'hui le mur des lamentations.
Exactement, le deuxième temple de Salomon. Les Sadducéens qui étaient les tenants du temple, voient leur force disparaître au profit de ce qu'on appelle les pharisiens. Et les pharisiens disent aujourd'hui la Torah, maintenant le temple étant plus là, la Torah va être le temple en Exode. Et ils obligent...
Donc la Bible.
Et la Bible, bien sûr. Et ils obligent tout enfant juif à lire et à commenter la Torah. Ce qui va avoir des répercussions énormes, parce que imaginez qu'au second siècle, où 99% de la population était analphabète, il y avait un peuple qui savait lire et écrire, ce qui va expliquer par la suite pourquoi les Juifs iront vers le commerce. Non pas parce que la terre leur était interdite, ça c'est une légende urbaine, non, ils ont été vers le commerce, parce que pour faire du commerce, il faut faire des contrats, et pour faire des contrats, ils étaient les seuls à écrire et à lire.
Ma prof d'hébreu m'avait raconté, Rachel Peled, que je salue, que son grand-père, enfant, avait été victime d'un pogrom. Il était en Biélorussie, ce qui est aujourd'hui la Biélorussie, et qu'il pleurait, et que là, son père lui met une claque en disant « Pourquoi tu pleures ?» Il dit « Papa, ils nous ont tout pris. » Il dit « Ils nous ont pris que du matériel.
Oui.
Ce que tu as dans ta tête, personne oui. jamais ne te le prendra. Donc, mon fils, étudie.
Oui. »
Et j'ai pensé à ça en vous lisant.
Oui.
Parce que j'ai l'impression que c'est le même discours du père de Leïba à Leïba.
Oui.
C'est dans l'étude que tu seras fort.
Exactement.
Que tu seras indépendant et libre.
Et alors, il est dans une ambivalence par rapport à sa famille, ce Leïba, parce qu'il a un père qui l'adore, qui veut en faire... il ne sait pas quoi, mais il sait que son fils va être quelqu'un d'exceptionnel. Et à côté, il a une mère...
Qui ne l'aime pas.
Qui s'appelle Aneta. Et cette mère, en tous les cas... lorsqu'il écrira sur sa mère, il aura une seule phrase. On lui demandera « Mais comment était votre mère ?» Il répondra simplement « Il écrira, elle était rustre. » Alors pourquoi cette femme était rustre ? Ben, cette femme a 8 enfants et sur les 8 enfants, il y en a 4 qui meurent. Et Leïba, avant de naître, il y a 2 enfants qui meurent avant lui et il y a 2 enfants qui meurent après lui. Et cette femme va préférer ses enfants morts à ses enfants vivants. C'est-à-dire qu'elle les enterre elle-même, elle les met au pied d'un arbre et elle va les
dans
voir
le jardin, hein,
dans le, elle va les voir tous les soirs et tous les soirs elle les berce avant de dormir en disant vous vous avez vraiment besoin de moi, les autres vont avoir une vie, vous vous allez rien avoir. Et donc il est dans ce rapport entre un père qu'il admire et il demande qu'une chose cet enfant, qu'une chose, c'est que c'est, sa mère reconnaisse qui il est et tout
même
ce
qu'il
talent
existe.
Et tout ce talent, tout ce qu'il fait, c'est pour sa mère. Et sa mère ne regarde pas, ne le voit pas, et va en souffrir. À tel point que cet homme qui deviendra un jour célèbre dans
l'histoire... On ne dit pas, parce que c'est l'un des moments extraordinaires de ce livre, quand à la fin, on découvre qui est vraiment Leïba. Je peux vous dire que j'ai pris un choc.
Bon.
Ah là, ça a été d'une belle décharge, là. Cet homme
qui deviendra célèbre, qui était un grand théoricien, à la fois politique, économiste...
Bah n'en dites pas trop, parce que sinon on va trouver...
Non, j'en dis pas trop. Je dis simplement qu'un jour, cet homme écrit un livre qui est vraiment une réflexion théorique, stratégique, qui est un truc incroyable de 800 pages, où on entend parler de différentes choses. Et ce livre de 800 pages, qui est un ouvrage théorique, commence par une phrase, qui d'ailleurs m'a donné envie de lire, de faire ce livre. Cette phrase, c'est... On dit que la jeunesse est le meilleur moment de la vie, l'enfance est le meilleur moment de la vie. Est-ce toujours vrai ? Non. Et je me suis dit, mais pourquoi il écrit ça ? Pourquoi dans un bouquin théorique de 800 pages, ce type commence par cette phrase ? Donc je suis allé chercher le pourquoi de cette phrase.
Il étudie dans un lycée chrétien où des juifs sont admis à Odessa, parce que bon, il quitte son petit kolkhoz, c'était pas encore des kolkhoz à l'époque, mais cette colonie.
Je dirais plutôt son kibboutz.
Son kibboutz, oui, bah c'est quasiment un kibboutz. Ouais. Pour aller à la grande ville, à Odessa, parce qu'il est très doué. Et là, il est dans un lycée chrétien, mais qui accepte les juifs, parce que c'est pas le cas de tous les lycées chrétiens.
Alors, d'abord, il quitte son domaine, il a 9 ans. Hein. Vous imaginez ce môme, il est à Odessa, il a 9 ans. Et il est pris non pas dans le gymnasium, qui est le meilleur lycée d'Odessa, parce que le quota de juifs est déjà rempli. C'est-à-dire que pour aller dans les lycées d'Odessa, il y a des quotas. Donc là, il y avait déjà suffisamment de juifs au gymnasium. Donc il va à Saint-Paul, qui est le second collège et lycée le plus important d'Odessa, où la majorité des cours sont donnés en allemand. Donc imaginez, ce garçon à 9 ans parle l'allemand, parle le russe, parle l'ukrainien. Et comprend le yiddish. Donc, c'est quelqu'un d'assez particulier qui va montrer là aussi qu'il est le plus fort et qui va réussir dans toutes les matières.
Passons à Shana, donc cette petite fille qui vit avec la culpabilité de la mort de sa mère en couche.
Oui.
Ça, c'est très présent aussi. On voit que dans leur histoire aussi, il y a un rapport à la mère très compliqué chez Leïba et chez Shana.
Alors, c'est très compliqué, d'autant que. Le père de Shana. Bon, Shana, c'est le personnage central du livre. Elle, c'est une femme merveilleuse. Au départ, on pense que c'est une grande fragilité. Et puis, petit à petit, on se rend compte que dans le couple entre Leïba et Shana, la force est chez elle.
Elle rayonne. Hein, dans
elle
le
rayonne. Elle est assez exceptionnelle.
Puis c'est et la princesse à son papa.
Exactement. Et son papa, justement, était fou amoureux de son épouse. Donc, à sa septième fille, parce que lui, il a eu 7 filles, à sa septième fille, la septième, sa femme meurt en couche. Et donc, Shana ne connaît pas sa mère. Et ce personnage aussi intéressant, le père de Shana, puisqu'il a une particularité, il est à la fois le plus grand boucher d'Odessa, et il est aussi Moël, c'est-à-dire celui qui circoncit.
Il fait ce qu'on appelle les Brit Mila.
Exactement. Et... Il a une particularité, comme beaucoup de personnages du livre, c'est-à-dire qu'il y a un rapport à leur religion, mais beaucoup ont un rapport personnel à leur religion. Et lui, il a un rapport tellement personnel pour un Moël, c'est qu'il dépose, il offre une nouvelle maison à sa fille pour la consoler de toutes ses peines. Et ensemble, ils mettent les mezouzas, c'est-à-dire les petits boîtiers qu'on met à l'entrée près des portes, dans les chambranles. Et d'ailleurs, on explique dans le livre pourquoi
Pourquoi ils sont, c'est de travers, c'est pas droit, c'est pas horizontal, c'est pas vertical, c'est légèrement penché.
Voilà, alors juste...
ah, on apprend franchement, si vous avez envie de découvrir la culture juive, notamment la culture ashkénaze, oui. ce livre est parfait. Alors, parce que oui, parce qu'il y a aussi plein de, il y a plein de mots en yiddish, plein de mots en hébreu, et vous avez une table des notes. Il y a, je sais plus combien, il y a peut-être une centaine de mots. À la fin.
Donc ce père est particulier. Donc juste un mot sur les mezouzas. Pourquoi les mezouzas sont penchés? Ben, ça a été décidé au Moyen-Âge en France, à Troyes. Il y a eu un grand débat théologique entre un rabbin et son petit-fils rabbin. Et le rabbin dit à son petit-fils, la mezouza doit être verticale parce qu'il faut qu'elle aille dans le sens de Dieu. Et son petit-fils lui dit, avec tout le respect que je te dois, je pense qu'elle devrait être horizontale comme la Torah s'est présentée aux hommes. Et là, il y a eu un grand débat et ce débat est typiquement juif, puisqu'il finit par un compromis. La mezouza sera à la fois verticale et l'horizontale, c'est-à-dire qu'on va la mettre penchée. Bon, donc, pourquoi je parle de cette mezouza penchée? C'est parce qu'il a tellement de liberté par rapport à la religion, il se dit, mais ma femme qui a donné naissance à 7 enfants, à mes 7 enfants, est l'équivalent de Dieu qui a donné naissance aux hommes. Donc, il décide de mettre des portraits de sa femme, et tous les portraits de sa femme dans la maison sont penchés, comme les mezouzas.
Exactement.
Et sa fille, qui voit sa mère comme ça, se dit « Mais pourquoi elle me regarde de travers ?» Et donc, elle la regarde de travers dans cette culpabilité de cet enfant qui a tué sa mère à la naissance.
Elle a vécu et vu un pogrom. Elle réchappe enfant
toute petite.
Et ça l'a... Ça l'a traumatisée,
c'est-à-dire ces deux traumatismes qui se rencontrent, Léba, le traumatisme du père, et Shana, le traumatisme de la mère.
Je vous propose, cher Claude Tovel-Posternak, un peu de lecture. Lisez-nous, s'il vous plaît, la page 66 et la page 67 de votre roman.
Les paysans sont déjà partis quand Shana, dans sa nouvelle robe, et Moshe se remettent en route. Les chevaux ont retrouvé un peu de vigueur et filent d'un sabot plus ferme vers l'écurie qui va bientôt les nourrir. Le parcours est toujours si cabossé. Une église succède à un hangar, un étang à une mare. Des calvaires installés après le départ des Turcs protègent les bons chrétiens et indiquent la route aux voyageurs. Même que la neige tombe, des jours entiers, le sommet de la croix dépasse pour que le pèlerin suive sa voie. Moshe sait qu'il faudra emprunter le chemin qui indique le nord au prochain calvaire. Le visage sur les genoux de son père, Shana s'est endormie. La lune éclaire le spectacle de la moisson et des brasiers. À l'horizon, une colline pointe son nez. Au petit matin se dresse Gros Moclé. Sur le versant sud de la vigne est baignée de lumière. Les raisins se dorent au soleil du matin dans l'attente de l'orage. L'attelage s'engage dans le bourg désert, croise les premières maisons et s'arrête devant celle du rabbin. Shabbat, qui n'est plus bercé, s'éveille. Sa petite tête bouclée surgit de dessous la couverture. L'air pue le fumier, l'urine et les os sales jetés au milieu de la rue. Mais elle ne sent rien. Des coqs chantent, des chiens aboient, mais elle n'entend pas. Un seul son arrive à ses oreilles, son cœur qui cogne dans sa poitrine. Le monde de ses rêves s'ouvre à elle. Elle a à la fois hâte et peur d'y rentrer.
Le monde de ses rêves s'ouvre à elle. Sait-elle déjà que, si jeune, son destin va basculer?
Non. Son destin, pour elle, va porter un nom, c'est Leïba. C'est-à-dire...
Ce garçon qu'elle rencontre. Qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils se retrouvent tous les deux à étudier, et puis il y a une tempête de neige, et donc ils doivent dormir tous les deux.
Exactement. Et ça, on comprendra à la fin qu'est-ce qui les unit, c'est-à-dire que... Ils restent coincés dans cette colonie agricole. Ils passent une nuit ensemble, deux enfants de 7 ans, avec leurs jeux innocents. Et cette rencontre, cette nuit passée ensemble, comme deux amants de 7 ans, fait qu'ils garderont cette nuit en tête tous les deux. Et ce qui va différencier Shana de Leïba, c'est que Shana va chercher cet homme toute sa vie, alors que Leïba, lui, va chercher ce qu'il a ressenti cette nuit-là. C'est-à-dire que ces deux approches qui vont être différentes, ils vont rester liés à tout jamais, jusqu'à la mort de Leïba, mais avec une approche différente. C'est-à-dire que Leïba va avoir d'autres rencontres, et dans chaque autre rencontre, il va essayer de retrouver ce qu'il a perdu de Shana. Alors que Shanna va à chaque fois penser à lui. Mais Shanna, à un moment donné, puisque son prince ne vient pas, rencontre un homme, un Ben, qui va la séduire, et elle va vivre là aussi dans une ambivalence entre l'homme de sa vie et l'homme de ses rêves.
Parce que ce livre, très beau, très dur, c'est aussi et surtout une histoire d'amour.
C'est d'abord une histoire d'amour.
Voilà, c'est oui. Avec beaucoup d'à côté, oui. Une histoire d'amour qui est dans un contexte, mais c'est surtout une histoire d'amour et on peut le lire même simplement comme une histoire d'amour.
Exactement.
Et c'est tout l'intérêt des grands romans, parce que c'est un grand roman, Claude Torel-Pasternak, je me permets de le dire. Il y a plusieurs niveaux de lecture et chacun peut y trouver ce qu'il veut. Je vous propose une petite respiration musicale. Mon cher Claude Torel-Pasternak, auteur de La promesse de Leïba qui vient de sortir chez Robert Laffont, je vous ai demandé, comme pour chaque invité, de choisir un morceau, une musique, une chanson. Qu'avez-vous choisi pour nous ?
J'ai choisi une chanson de Régine qui s'appelle Une mère, que j'ai écrit pour Régine. J'ai fait un album pour Régine avec Renaud qui s'appelle Made in Panam. Et j'ai fait différentes chansons pour elle. Et à un moment donné, Régine m'a dit « Est-ce que tu pourrais m'écrire une Yiddish mamé moderne ?»
Donc, alors, Yiddish mamé, qu'elle chante d'ailleurs elle-même.
Qu'elle chante
c'est
également.
Une chanson Yiddish classique. Voilà,
emblématique de la mère juive.
Ashkenaz.
Ashkenaz, bien évidemment. Donc j'ai écrit une chanson qui s'appelle « Une mère ».
À chaque fois que je dis que je t'aime, j'ai l'impression que ça te gêne. À chaque fois, je suis là quand même pour consoler tes pleurs, tes peines. Je pense à toi tous les jours. Tu es mon bel, mon grand amour. Tu sais, c'est 9 mois passés avec toi. 10 ans après, ça ne s'oublie pas. Tu sais, mon fils, que ça te plaise ou pas, une mère s'est fait comme ça. À chaque fois que tu m'appelles, je suis aussi fier que la tour Eiffel.
Tu sais, mon fils, que ça te plaise ou pas, une mère s'est fait comme ça. Ouais, oui. Juive ou pas juive, hein. Toutes les mères sont comme ça, et c'est tant mieux. C'est un livre qui raconte aussi les débuts du communisme et les débuts du sionisme.
Oui.
Qui sont d'ailleurs liés.
Oui. Alors, ils sont liés, et ils sont liés à Odessa. Odessa, c'est une ville incroyable, qui est peu connue. Disons, il y a deux pôles dans le monde juif. Il y a le pôle d'Alexandrie, pour le sud, et le pôle de l'Est, c'est vraiment Odessa. Il faut imaginer qu'Odessa est une ville extrêmement particulière. C'est la seule ville de l'Empire russe où d'abord les Juifs peuvent entrer, peuvent vivre, et où les Juifs peuvent être même fonctionnaires. C'est-à-dire être fonctionnaire dans l'Empire russe, c'était improbable. Alors pourquoi il y avait ça ? Ben pour une raison simple, c'est que le tsar avait besoin de peupler cette région prise aux Turcs, et donc il a fait appel aux Juifs. Donc à Odessa se retrouve tout. C'est-à-dire que vous allez avoir, comme Leïba, qui va devenir un marxiste agraire, vous allez avoir des marxistes prolétariens, vous allez avoir des bundistes. Alors le Bund, c'est quoi ? Le Bund, c'est le plus gros parti ouvrier de la Russie, et c'est un parti juif, c'est-à-dire c'est un parti qui a été créé, ce n'était pas un parti sioniste, c'était un parti créé à la fois en Lituanie, en Pologne et en Russie. Vous avez donc des sionistes yiddishisants, c'est-à-dire des sionistes qui souhaitent retourner en Palestine et avoir comme langue le yiddish.
Ce qui d'ailleurs était à un moment un vrai débat à la création d'Israël, de savoir si la langue officielle était le yiddish ou
l'hébreu.
Si on ravivait l'hébreu.
Et donc il y avait
c'était l'hébreu qui a été choisi.
Exactement. Et il y avait donc à Odessa toutes ces écoles qui avaient leur propre café, et il y avait des débats qui étaient débats. Et ce qui est intéressant, c'est de se dire... J'aurais eu 20 ans à cet âge-là, qu'est-ce que j'aurais fait ? Et c'est un peu la même question qu'on peut se poser aujourd'hui. Qu'est-ce que je ferais aujourd'hui ? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui avec ce qui se passe dans le monde, avec l'antisémitisme qui revient ? Donc, les débats qui sont à ce moment-là sont importants. Et juste un mot, parce que il permet d'éclairer l'actualité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, celui qui sera le mari de Shana avait un père qui a été tué lui aussi dans un pogrom à Odessa et qui était un militant socialiste révolutionnaire qui était membre du Bund. Et au deuxième congrès du Parti social-démocrate de Russie, quelques semaines avant, il y a eu un grand pogrom à Chisinau, qui est en Moldavie. Donc les membres du Bund, qui était le principal parti ouvrier, qui représentait 30% des délégués de ce congrès, demandent au congrès de condamner le pogrom de Chisinau. Et là-dessus, Lénine appelle Trotsky, juif, appelle Martov, juif, fondateur du Bund, et leur dit, écoutez, allez voir vos amis du Bund, on ne peut pas voter une motion comme ça, il ne faut pas diviser le monde ouvrier, etc. Bon, ils vont voir les gens du Bund, et Trotsky explique aux gens du Bund, vous comprenez, on ne peut pas diviser le monde ouvrier, et que le socialisme allait régler le problème des Juifs, de leur intégration dans la patrie du socialisme, et qu'on ne pouvait pas condamner un soulèvement populaire. Et à ce moment-là, les gens du Bund, qui avaient créé le Parti social-démocrate de Russie, qui était la principale force ouvrière, décident de quitter le Parti social-démocrate de Russie parce qu'un pogrom ne peut jamais être un mouvement populaire.
Très intéressant, très beau parallélisme à faire avec
le 7 octobre.
Que nous vivons depuis le 7 octobre. C'est le moment du questionnaire de Fred. Des questions courtes, des réponses courtes. Où écrivez-vous ?
Au Portugal.
Quand écrivez-vous ?
Tout le temps.
Avez-vous des superstitions ou des rites au moment de l'écriture ?
Une routine.
Écoutez-vous de la musique quand vous écrivez ?
Jamais.
Quel livre vous a-t-il le plus marqué enfant ?
Astérix.
Quel est le livre le plus important de votre vie ?
Chanson pour la fille du boucher.
De
Peter Manceau. Peter Manceau, juste une particularité, il a écrit qu'un livre. Son père était curé défroqué, sa mère était bonne sœur défroquée.
Quel livre voulez-vous écrire absolument ?
Le prochain.
Êtes-vous un adepte de la lecture de plusieurs livres en même temps ?
Oui.
Quel livre pourriez-vous recommander à des parents qui veulent donner le goût de la lecture à leur enfant ?
Cohen.
Albert Cohen ?
Oui.
Belle du Seigneur, c'est long, mais c'est...
La mère.
Quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui n'arrive plus à lire un livre, enfin un roman en entier ?
Vous devez vivre une grande souffrance. Abandonnez cette souffrance, retournez au bonheur, retournez au plaisir.
Passons au deuxième chapitre de cette édition. Je suis ravi d'accueillir le journaliste Jérémy Brossard, collègue de BFM TV, auteur d'un très beau et très poignant récit intitulé « La traversée » qui vient de sortir chez Plon. Bonjour Jérémy.
Bonjour Fred.
Au début de chaque chapitre, vous citez un auteur. Et ça commence par les deux les plus importants de ma propre existence.
Ah.
Rilke, Rainer Maria Rilke, l'être un jeune poète, et Khalil Gibran, le prophète. Je me suis dit, quelqu'un qui choisit deux auteurs comme ça ne doit pas être aussi mauvais.
Bah, Rilke, on parlait à l'instant des livres qui ont marqué. Sans doute, L'être un jeune poète, pour moi, c'est
la référence. Pour moi, c'est le deuxième. Pour moi, le premier, c'est Le prophète, et le deuxième, c'est L'être un jeune poète. À un moment, on parle de la nuit. Je crois que c'est Khalil Gibran qui parle de la nuit et que pour connaître l'aurore, il faut passer par la nuit. Votre nuit à vous, c'est la dépression. Et c'est ce que vous racontez dans ce livre.
Oui, ça commence quand on la diagnostique, quand j'ai quelqu'un en face de moi qui me regarde dans les yeux, qui met ce mot sur ce mal que j'ai en fait depuis longtemps, mais que je ne veux pas voir depuis assez longtemps. Il y a une forme de déni que je raconte notamment dans le livre. Et voilà, et ça c'est le point de départ, on va dire, du récit. Alors c'est un témoignage. Moi j'ai eu besoin d'écrire vraiment à titre au début personnel parce que c'était tellement ce que je vivais était tellement incompréhensible, absurde, douloureux que c'était une façon pour moi de le mettre un peu à distance. Et puis dans cette traversée, donc avec tout ce que j'ai pu faire pendant cette année, plus d'une année passée, j'ai appris beaucoup de choses avec tout ce que j'ai fait pour essayer d'aller mieux. Et après, je me suis dit, peut-être c'est l'occasion de publier pour partager justement tout ce qui m'a fait du bien. Donc, je raconte le mal, la difficulté à vivre, mais aussi, et j'espère que, en tout cas, ceux qui le liront trouveront cette ressource-là,
des conseils aussi pour essayer de s'en sortir. Quoi.
De
voilà,
s'en sortir.
Vous partagez votre
en gros,
expérience
de ce qui,
et
de
vos
ce qui
tentatives
m'a fait
de remède.
Complètement, complètement.
La citation, parce que j'aime bien citer bien les auteurs, Khalil Gibran, c'est « Nul ne peut atteindre l'aube sans passer par le chemin de la nuit ». Gibran, Khalil Gibran,
c'est beau.
Extraordinaire poète libanais de famille maronite, anglophone et arabophone, fin du 19e, début 20e. On est à peu près dans la même période que les héros du roman de Claude Posternak. Je vous lis, cher Jérémy Brossard, « La traversée chez Plon ». Jusqu'au jour où mon corps ne m'a plus obéi.
Oui.
Ne m'a plus obéi.
Ben, en fait, oui, c'est-à-dire qu'il y a un...
Alors, c'est une phrase qui me paraît... C'est la fin d'un chapitre. Il y a cette phrase-là.
Oui.
Et là, je crois qu'on commence à comprendre le drame que vous vivez. Jusqu'au jour où mon corps ne m'a plus obéi.
Oui, parce qu'il y a un moment, ça ne répond plus, en fait. On a beau vouloir se forcer, se dire que ça va passer, voilà. Et à un moment, le corps décide, au fond, à votre place. Et d'avoir été trop, sans doute, nié, pas écouté, pas suivi, il prend le dessus. Et un jour, c'est lui qui vous dit, là, c'est fini. Il n'y a plus de ressources, il n'y a plus de possibilités. Et donc, c'est un choc physique et psychique. Et c'est à partir de là que commence une traversée, une aventure que je pensais pas vivre avant ça. Parce qu'on se dit souvent que la dépression...
C'est 5 ans.
Oui.
Dans les effets les plus durs, c'est 5 ans.
Oui. On se dit souvent que ça arrive aux autres, qu'on est plus fort que ça. En tout cas, moi, j'avais beaucoup cette croyance qu'il suffisait de vouloir. On m'a beaucoup élevé aussi là-dedans. Quand on veut, on peut. Là où il y a une volonté, il y a un chemin. Ouais, je ne sais pas si ça vous parle, mais...
Oui, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Enfin, voilà, toutes ces phrases...
Il ne faut pas trop s'écouter.
Qu'on met sur des manettes, sur les portes de frigo, quoi. Voilà.
Arrête de t'écouter, oui, continue, oui, oui, oui. Voilà. Et moi, j'étais beaucoup dans cette culture-là, sans doute, un peu malgré moi, sans trop m'en rendre compte. Et au bout d'un moment, ça ne suffit pas de vouloir pour pouvoir. Il y a des moments où il faut vraiment s'arrêter. Le corps vous dit de vous arrêter.
C'était quel jour, cette prise de conscience? Ce jour où le corps n'a plus obéi?
Alors, le jour, le livre commence un 19 avril, parce que c'est ce jour où je suis diagnostiqué, on me le dit en face. Et alors, le jour précis, je ne pourrais pas vous dire, mais c'était 2 semaines avant où là, je n'arrivais plus à me lever du tout, en fait. Et...
C'est ça, c'est que physiquement, quand il ne répond plus, c'est-à-dire que votre cerveau n'arrive plus à faire fonctionner votre corps.
Oui, c'est ça, c'est-à-dire que je ne me lève plus, c'est-à-dire que j'ai l'impression que je n'ai plus de bras, de jambes, j'ai de la bouillie dans les membres. Ce qui fait que je n'arrive pas à sortir du lit et je suis comme aspiré dans le matelas. Enfin, il y a une sensation physique qui est assez, assez troublante parce qu'on a l'impression d'avoir été amputé. Enfin, moi, c'est vraiment le sentiment que j'avais. C'est de ne plus avoir de bras, plus avoir de jambes et des pleurs qui ne s'arrêtent en fait plus. Une forme d'inconsolabilité, je ne sais pas si ça se dit, mais vous avez
l'idée. C'est un joli mot d'ailleurs.
Voilà, c'est un peu l'idée. C'est le point de départ effectivement du chemin.
Vous dites, Jérémy, à l'instant, je suis diagnostiqué. Parce que qui dit diagnostic, dit maladie. La dépression est une maladie, ce n'est pas un état. C'est une maladie, ce n'est pas... C'est une maladie qu'on diagnostique et on oublie trop souvent que c'est ça, que c'est une maladie. Ce n'est pas simplement une humeur, c'est pas le mot que je cherchais, ce n'est pas une humeur.
Non, c'est pas une humeur, c'est effectivement une maladie que je connaissais assez peu parce que je ne m'étais jamais vraiment intéressé à ces questions-là. Et encore une fois, moi, j'avais un peu en tête un logiciel dans lequel il faut aller de l'avant et pas trop s'écouter. Il y avait une forme de faiblesse. D'ailleurs, quand on me le dit, moi, je le vis, mais j'ai une honte. Enfin, je parle d'indignité. Enfin, pour moi, j'ai l'impression qu'on m'a mis une claque, qu'on m'a insulté. Enfin, il y a vraiment quelque chose de cet ordre. Donc, tout le chemin, ça a été aussi d'accepter ça et de se dire effectivement, c'est une maladie, elle se soigne. D'ailleurs, c'est ce que me dit mon médecin. Et ça, quand il me dit ça, ça me fait beaucoup de bien. Parce qu'au fond, ça me déculpabilise. Elle me dit, OK, quand tu as...
Ça t'est tombé dessus comme un cancer. Comme
voilà.
un,
quand il voilà. y a une angine, on va voir son généraliste et il fait ce qu'il faut pour nous aider. Et là, c'est un peu la même chose. Mais c'est vrai qu'il y a un poids sur la santé mentale, et même si ça change, et heureusement. Mais... C'est un chemin, en tout cas, à faire, un chemin personnel important aussi d'acceptation.
Il y a des signes avant-coureurs, par exemple, vous mangez plus. Et puis, vos amis vous invitent à manger pour être sûr de vous voir bouffer quelque chose, quoi.
Oui. Ben, on se rend compte qu'on a maigri, mais encore une fois, on n'y prête pas vraiment attention. On ne veut pas le voir, encore une fois. Et oui, mes amis me disent « Ah, ben, t'as maigri, tu manges en ce moment ?» Oui, je mange. En fait, j'ai plus très faim. Mais en fait,
oui, mais eux sont conscients qu'il se passe quelque chose. Parce que vous le dites… Il m'invite à déjeuner au restaurant pour me voir manger.
Eux, à cette époque, avant l'effondrement ou jusqu'au jour où le corps n'a plus obéi, eux sont sans doute plus conscients, je vous le dis aujourd'hui avec le recul, mais à l'époque, quand je relis ce qui s'est passé, eux sont beaucoup plus conscients de ce que je suis en train de vivre que moi-même.
Et au boulot, vous êtes un reporter, vous êtes un présentateur, vous êtes connu, mais vous êtes bien aidé au boulot aussi.
Oui.
Vos chefs vous comprennent.
Oui, une fois qu'il y a eu l'effondrement, d'ailleurs, je cite Céline Pigalle qui a dirigé la rédaction de BFM pendant plusieurs années, qui a été extrêmement proche, qui a eu des mots très, très importants dans ces moments où tout s'écroule. On a le sentiment qu'on ne peut plus s'accrocher à rien. Et voilà, je la cite d'ailleurs dans le livre. Et voilà, et c'est ce moment où je dis, bah, en fait, là, j'ai vraiment besoin d'une pause et je demande une année sabbatique. J'ai besoin de m'arrêter, donc je prends plus d'une année où je lâche vraiment tout le travail. Un an pour moi et pour essayer de remonter à la surface. Quoi.
Et vous marchez.
Et je marche.
Et vous faites le chemin de Saint-Jacques de Compostelle.
Saint-Jacques, oui. Pareil, moi j'avais...
Pèlerinage hautement chrétien.
Oui, moi j'en avais entendu parler de...
Oui, parce que c'est aussi une destination touristique. Hein,
oui, c'est assez connu.
Il n'y a pas que la dimension spirituelle.
Non.
D'ailleurs, vous êtes surpris parce que vous vous attendez à tomber sur des cathos tradis et vous rencontrez plein de gens comme vous, en fait.
Ben oui.
Et plein de gens très différents.
Oui, je pensais voir des gens vraiment en pèlerinage, avec des croix.
Il y a de tout. Il y en a aussi, bien sûr.
Il y en a, mais c'est vrai que c'est pas le... En tout cas, dans mon expérience personnelle, c'est pas la majorité des gens que j'ai croisés sur le chemin. Et ça m'a fait un bien fou. De marcher, de cette liberté, d'être chaque soir dans une nouvelle ville, de découvrir, de pas savoir où on va coucher le soir, faire des rencontres, se laisser un peu porter par la vie au fond. Et c'est aussi ces semaines de marche m'ont vraiment remis en mouvement et en joie aussi. J'ai retrouvé un peu de plaisir.
Et puis la marche, c'est le sport des écrivains quand même. Les plus grands écrivains disent que ils ont d'inspiration, si je sais si elle existe, mais enfin, je ne suis pas sûr qu'elle existe, mais en tout cas que la marche inspire.
C'est avec les pieds qu'on se nettoie le mieux la tête.
Claude Posternak qui vient d'apporter sa grande sagesse
c'est très juste.
Ce deuxième épisode.
Je l'ai vérifié.
Oui. Alors, vous savez, moi j'ai une vraie théorie, je pense que le monde se divise entre les gens qui marchent et les gens qui courent. Et je pense que c'est vraiment, on est sur deux radicalités. Je sincèrement, c'est-à-dire que j'ai une grande admiration pour les gens qui marchent et j'ai peu de respect pour les gens qui courent. D'ailleurs, vous pouvez remarquer que les gens qui marchent ne se vantent pas de marcher, n'affichent pas de performance. Les gens qui courent veulent absolument montrer qu'ils courent. Il y a des applications où on montre et qui publient sur les réseaux sociaux leur performance. Là, dans la marche, et notamment dans la marche, on va dire, curative, qui est la vôtre, on n'est pas du tout dans la performance.
Non, parce que c'est vrai que dans la course, il peut y avoir facilement, et je le vois autour de moi, une forme de... On est dans la compétition, on veut faire des performances, on veut être meilleur que soit son précédent record ou que le record des camarades. Et dans la marche, non, c'est vraiment un retour à soi. Et c'est là où ça m'a fait du bien, c'est que ça m'a permis aussi même si c'était douloureux, de revenir un peu à ce que je ressentais, là où je me suis un peu noyé dans le boulot,
Oui, un boulot, journaliste, on court.
On court.
On court dans le métier journaliste. On court. Et donc, alors, ce qui est très intéressant, parce que, bon, voilà, bien sûr, je prépare ces émissions, je mets des questions, mais là, il y a une chose qui arrive, j'allais vous poser cette question de... Vous avez besoin de savoir quel enfant vous avez été, vous en parlez à votre mère.
Oui.
Et ce qui est très intéressant, et je pense à la marche, en fait, les premiers pas que l'on fait, souvent devant ses parents. Et là, je vois cette question qui n'est pas un hasard. Le hasard ne frappe jamais par hasard, disait Jacques Prévert. Vous marchez et vous demandez, vous refaites vos premiers pas et vous demandez à votre maman quel enfant j'ai été, parce que vous avez besoin de savoir peut-être d'où vient ce mal qui vous attaque.
Oui, parce que j'essaie de comprendre comment j'en suis arrivé là, pourquoi j'ai quelle fragilité j'ai véritablement. Et c'est vrai que je viens d'un milieu, mais je pense que c'est assez commun, où il y a peu d'échanges, d'intimité avec les parents, avec le père, avec la mère. C'est une autre génération. Moi, je suis né dans les années 70. Des parents, petits chefs d'entreprise qui travaillaient beaucoup. Voilà, c'est un autre milieu. Et j'ai besoin de parler à ma mère, ce qui n'avait jamais été fait avant, ce qui est quand même fou quand on... Voilà, j'ai quasiment 50 ans aujourd'hui. Mais échanger avec elle, comprendre l'enfant, le môme que j'étais, pour essayer de mieux comprendre ce qu'il avait à me dire, au fond, et que je n'avais pas encore vraiment compris ou entendu.
Vous connaissez ces vers d'Aragon, « Nul ne guérit de son enfance ».
C'est beau.
Ben oui, et c'est très bien chanté aussi par Jean Ferrat. Il y a aussi des voyages, il y a le Brésil qui est très important dans votre thérapie.
Oui, il y a Compostelle, ça c'est le point de départ, et le Brésil effectivement qui m'a fait un bien fou. Déjà le voyage en soi, je pense que ça libère, on sort complètement de ses conditionnements, de ses enfermements, de ses habitudes, et donc on retrouve une forme de liberté qu'on ne soupçonnait pas, des façons d'être qu'on ne connaissait pas. Donc je pense que ça fait beaucoup de bien. Et le Brésil, je pense particulièrement parce que ça, il y a une forme, je ne veux pas être dans le cliché, mais il y a une forme de spontanéité, de vie dans les regards, dans la façon d'être, de faire la fête, d'être au monde au fond. Et ça m'a fait un bien fou parce que moi, j'en avais vraiment, vraiment besoin.
Donc, et le livre commence à être écrit là-bas.
Oui, je commence là-bas, oui.
Je voudrais vous dire, parce que là, c'est le dernier programme avant les vacances, c'est pas un livre larmoyant. Hein.
Non.
Voilà, c'est pour ça. Non,
alors moi, je pleure beaucoup dans le livre.
Oui, ben oui, bien sûr. Oui, non, mais
je pense c'est assez positif.
Voilà,
oui.
C'est positif.
Oui, oui.
C'est ça, parce que on me dit bon, allez pour la plage, je vais vous faire lire La Traversée de Jérémy Brossard chez Plon. Bon, c'est une expérience de la dépression. On se dit bon, voilà.
Oui, c'est pas très vendeur, dit comme
non,
ça.
Mais quand vous voyez le sous-titre, Un long chemin pour retrouver la lumière. Bon, il y a quand même quelque chose de très chrétien. Je ne sais pas si vous êtes de culture chrétienne, mais enfin, on est quand même...
Alors, de culture, oui, bien sûr. Après, je voyais la lumière, on peut lui donner le sens, oui, ce qu'on veut.
Mais bon, on est quand même dans des mots... Compostelle, la lumière...
Mais ça rejoint ce qu'on disait en début de l'interview.
Le Corcovado au Brésil, bon, hein. Il y a plein de choses qu'on apprend.
Le chemin
apprend
de la nuit pour arriver à l'aurore. Exactement. Ce qu'on disait
voilà,
au début.
Avec Khalil Gibran. Il y a plein de sujets qu'on aborde. On en apprend à vous connaître aussi. Je veux dire que moi, il y a ces lignes, page 76, qui m'ont impacté. Vous dites, être homosexuel, je ne sais pas précisément quand j'ai pris conscience de cette catastrophe intime. C'est ça, catastrophe intime, ça m'a interpellé.
Oui, parce que je pense que ça fait partie aussi du mal-être accumulé au fond d'une vérité, de ma vérité qui est mal vécue, mal partagée, mal assumée, on va dire. Et voilà. Et ce chemin m'a obligé aussi à revenir là-dessus et à mettre des mots sur un vécu qui a été très 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 douloureux
et qui a pu avoir des conséquences des années après.
Oui, voilà, oui, complètement, sûr, qui voilà, fait sûr. Qu'il y a une forme de mal-être, d'être au monde qui n'est pas juste ou pas épanouissant, on va dire.
Dernière question, comment ça va aujourd'hui ?
Ça va bien.
Vous avez l'air ? Ça fait plaisir ?
Oui, 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 non, non. Après, quand on a vécu ça, on est toujours assez prudent, mais on se connaît beaucoup mieux. C'est aussi la leçon de tout ça, mais ça va...
Toujours en analyse, toujours...
Toujours en thérapie, je suis... conscient de mes fragilités que j'ai toujours, mais j'arrive de mieux en mieux, on va dire, à faire avec. Donc,
En fait, les angoisses, on apprend en thérapie, en psychanalyse ou en thérapie à reconnaître, à les détecter et à les désamorcer.
Oui.
Finalement, c'est ça.
Oui.
La guérison n'est jamais possible. Non, même les gens heureux ne guérissent jamais de ça.
Ben, au début de cette traversée, c'est vrai que je pensais pouvoir guérir. Je suis malade et je vais guérir. Et en fait, là aussi, dans le chemin, on change un peu d'analyse et on se dit, je ne vais pas pouvoir effacer tout ce qui s'est passé. Je vais juste essayer de vivre le mieux possible ma vie d'homme et d'adulte dans ce monde avec tout ça. Et voilà, c'est ce que je continue à faire. Quoi.
Et tout ça donne un très beau livre, Jérémy Brossard, La Traversée, un long chemin pour retrouver la lumière qui vient de sortir chez Plon. Merci Jérémy.
Merci.
On passe au troisième chapitre de cette grande émission. J'accueille maintenant les journalistes, podcasteurs et écrivains Céline Kallmann et Benjamin Muller qui nous viennent avec La Cité d'Angèle, un livre jeunesse illustré qui est sorti chez Glénat Jeunesse il y a quelques jours. Bonjour Céline, bonjour Benjamin.
Bonjour Fred.
Bon, on ne va pas faire « on ne se connaît pas » et tout. Si on se connaît, on est copains. Vous êtes passé par cette maison, hein, par RMC. Mais je vous ai invité aujourd'hui parce que votre livre, il est sorti le...
1er juillet.
1er juillet, donc là, on est en plein dedans. Et que c'est important aussi, à l'approche de l'été, de parler aux jeunes, de parler des livres jeunesse, parce qu'on reproche de plus en plus aux jeunes de ne pas lire. Donc, il est important de leur offrir de beaux livres. Alors, c'est la première partie. Il y aura trois livres. Hein, c'est une série de trois livres. C'est la première partie de New York à Chicago, parce que c'est l'histoire de Louis qui va traverser les USA pour rejoindre son amie Angèle à Los Angeles. Bien joué. Et quelle est l'idée de base de ce bouquin? Comment c'est venu? Un road trip comme ça d'un gamin.
Mais c'est venu...
Il est ado, hein. Il a quel âge? Il a 16 ans.
C'est un adolescent. Ouais. C'est venu, je dirais, de notre histoire personnelle. Moi, quand j'avais 15 ans, je suis partie vivre un an aux États-Unis. Je voulais partir de chez moi.
15 ans? Vous étiez où?
Où j'étais avant? Ah non, j'ai atterri dans le Wisconsin. Donc, je n'avais pas choisi. C'est la famille qui m'a accueillie.
Oui, c'est des échanges. Enfin, voilà, c'est...
Exactement. Ouais. Mais j'avais demandé à mes parents, je voulais partir pour apprendre l'anglais, puis je crois qu'il fallait que je parte de chez moi. Donc bon, j'y ai mis beaucoup de pugnacité, mes parents ont fini par lâcher, mes parents m'ont lâché, je les ai lâchés, et je suis partie un an. Et puis avec Benjamin, on s'est rencontrés, etc.
Oui, parce que vous êtes
on est
en
ensemble,
couple et vous êtes parents.
Voilà, on a trois enfants. Et quand on s'est mariés, j'ai dit « Ok, on se marie, mais on retourne dans le petit village où j'ai passé un an quand j'avais 15 ans. » Et donc, on est parti dans le Wisconsin. Et de là, en fait, est née cette envie de raconter un espèce de road trip. Alors, on n'était pas parti de New York, mais voilà, de New York à Chicago. Et ensuite, vous verrez dans les prochains tomes, dans les années prochaines.
On passe par le Wisconsin.
On passe évidemment par ce petit village.
C'est pour quel âge, ce livre? Est-ce que c'est l'histoire d'adolescent?
Alors, Benjamin. C'est une question que moi, je trouve toujours très compliquée de répondre à ça parce que...
Oui, mais je suis obligé de la poser parce
sûr,
que pour les gens qui vont acheter
sûr,
votre livre, ils seront nombreux.
Je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Moi, je trouve... Oui, on dit à partir de 7-8 ans, c'est effectivement pour des enfants qui commencent à lire, donc CE1, CE2, jusqu'à entrer en 6e. Mais d'un autre côté, moi, j'ai toujours adoré lire des histoires à des enfants plus petits, à mes enfants quand ils étaient plus petits.
D'accord.
Et je pense aussi, comme il s'agit d'adolescents, on peut aussi s'y retrouver. Donc, vous voyez, c'est... en fait, je trouve que c'est compliqué d'enfermer
non, mais,
en fonction des
mais
âges.
Mais simplement pour dire, un gamin tout seul qui ouvre le bouquin à 7-8 ans...
Oui, voilà, c'est le... normalement c'est adapté à cet âge-là.
C'est un très beau cadeau à faire pour les bonnes notes.
Pour les bonnes notes. Mais pas que d'ailleurs, pour encourager
pour les mauvaises, au contraire, pour les mauvaises notes, pour
donner envie. Alors, c'est un livre qui parle beaucoup des rencontres, de l'amitié, qui sont des domaines, des thèmes essentiels pour les ados et les enfants.
Et puis pour nous c'est aussi. Et d'ailleurs, les deux témoignages que moi j'ai écoutés, c'était un énorme plaisir
Claude
de vous écouter
et
tous les deux. Mais en fait, Saint-Jacques de Compostelle, ça fait beaucoup, ça fait appel un petit peu à nous, c'est-à-dire le voyage, la traversée, on ne sait pas trop dans quoi on se lance. Et c'est ça que nous, on voulait donner à nos enfants. Et puis Claude, quand je vous entendais parler de la liberté, et notamment qu'on disait aux enfants juifs, ashkénazes, si tu veux réussir, il faut que tu sois libre, c'est ça aussi. Donc entre le voyage, la liberté, donner aux enfants envie de leur dire en fait, tout est possible. En vrai, en vieillissant, on se rend compte que tout n'est pas possible. Mais au moins dire aux enfants, si plus tard tu as envie d'une vie de voyageur, d'une vie de liberté, d'une vie avec enfants, d'une vie sans enfants, d'une vie amoureuse, d'une vie... On s'en fout. Fais-le. Et donc nous, c'est vrai qu'on l'a un peu fait. Nous-mêmes, avec Céline, je crois qu'on prend parfois des décisions un peu... irréfléchi, mais pour aller vers la liberté. Et donc, j'ai envie de donner ça d'une part à nos enfants et d'autre part aux enfants qui vont nous lire.
Et les personnages aussi dans le livre sont, comme dans le livre de Claude, gentils.
Ah oui, oui, c'est vrai.
Non, mais c'est hyper important.
Oui, ils sont sains.
Ah ouais.
Ils sont sains, tous les gens.
Sachant que le mot gentil peut être une insulte, vous savez.
Oui, mais pour moi, c'est la plus belle qualité chez l'être humain, c'est la gentillesse. Je ne supporte pas les gens pas gentils, les gens méchants. Mais vraiment, c'est un truc.
Ah ouais.
Mais à n'importe quel âge, quoi. Des jeunes pas gentils, des adultes pas gentils et des vieux pas gentils. Mais parce que la gentillesse, c'est le liant dans la société. C'est l'huile dans les rouages qui nous permet de vivre tous ensemble.
Ouais, la gentillesse,
quelques milliards dans ce monde.
Puis les vertus qui vont avec. Moi, je
les
crois
sourires,
beaucoup,
je crois
beaucoup
les partages.
À la bienveillance, à l'empathie, bien la capacité de se mettre à la place d'un autre. Et c'est dans les voyages, c'est ça. Les voyages, ça apprend ça.
Mais on dit
ça apprend de voir.
Comme la jeunesse.
Ouais.
Moi, j'étudie toujours. Les voyages rendent moins con. Non, mais vraiment, moi, ouais, je me sens moins inculte.
Et on redevient un enfant quand on voyage.
Parce qu'on est là, émerveillé. C'est ce qu'il faut offrir, vous qui. Vous êtes spécialisé dans les livres pour enfants. Faut offrir ça aux enfants. Cette bienveillance, le fait de leur montrer un monde qui est gentil en disant ben, ce monde, il a. Que toi aussi, tu as une place dans ce monde et que ce monde
évidemment.
Il n'est pas que ce qu'on voit aux infos le soir.
Mais il faut prendre conscience aussi que les enfants. On les a, c'est ce que tu disais tout à l'heure. On n'avait pas le droit de parler à une certaine époque. Les enfants se taisaient à table, ils restaient dans un carré où ils n'avaient pas le droit de sortir. Aujourd'hui, on dirait que les enfants sont devenus insupportables. Non, les enfants s'expriment. Les enfants font part de leurs émotions. Là où avant, on leur disait bon, arrête de pleurer. Mais non, pleure. T'es fâché, fâche-toi. Je veux dire, les adultes. Ont le droit de s'engueuler dans un débat à la radio, ils ont le droit de sortir de leur.
J'adore m'engueuler avec Fred, moi.
De dire,
mais
je ne suis pas d'accord.
Programme de livre,
non, là, c'est plus posé que chez Estelle.
Mais en fait, les enfants aussi, ils ont le droit d'être en colère, ils ont le droit de faire part de leurs émotions. Mais je leur dis aussi, à mes enfants, chacun fait ce qu'il veut, qu'il faut être gentil, qu'il faut se mettre à la place de l'autre, que c'est important.
L'empathie est une des conditions sine qua non de la vie en société.
Ah ouais. Et dans nos livres pour enfants, je crois que ça c'est une base.
On parlait des sujets là importants, mais techniquement, comment on choisit les bons mots qui puissent être facilement compréhensibles par des enfants? C'est ça, moi je me pose toujours cette question.
Mais moi je pense qu'il ne faut pas réfléchir comme ça parce que les enfants ont soif d'apprendre. Et donc, des mots qu'ils ne connaissent pas, il y a un mimétisme. Après, ils vont découvrir des mots. Dans le contexte des histoires, ils vont bien souvent les comprendre. Et je pense qu'ils peuvent faire de ces mots.
On ne se limite pas quand on écrit.
Oh, non,
c'est Kelman et Benjamin Muller.
Non, il ne faut pas.
Bon, après.
Mais le niveau global, le niveau global avec les réseaux sociaux, avec tout ça, et déjà, moi, je trouve qu'il y a un nivellement par le bas. Si nous, en plus, on commence à se dire non, utilise des mots un peu cuculapraline pour que tout le monde les comprenne.
Et souvent, on rencontre des parents qui nous disent merci parce que mon enfant a enrichi votre vocabulaire en écoutant le podcast. Parce qu'il faut dire quand même que le livre est issu du podcast Encore une histoire.
Bien sûr, et qu'il y a un QR code
ouais,
sur ce livre.
Pour écouter l'histoire.
Et vous écoutez l'histoire, magnifiquement contée par Céline Kelman.
Ouais.
Et j'aimerais ajouter quelque chose sur ce que disait Céline, c'est sur l'importance de dire à nos enfants, en fait, de parler de leurs émotions, de libérer ce qu'ils ont en eux, dans leur corps, dans leur tête, c'est pour justement éviter que deviennent des catastrophes intimes, ce qui ne doit pas l'être. Ça peut être l'homosexualité, ça peut être tout autre chose, tout ce qui fait qu'on sort de ce qu'est la norme, qui ne devrait pas être une norme. Donc je pense que plus on va aller vers cette génération où les enfants ont la possibilité de tout exprimer, nous, nos enfants, on leur a déjà dit 1000 fois, mais on devient peut-être même des clichés des parents, c'est-à-dire, si demain, t'es homosexuel, hétérosexuel, rien du tout sexuel, ce sera un non-sujet pour nous, parce que moi, on va rater plein de choses, on rate plein de choses, nos enfants nous détestent déjà pour plein de choses, il n'y a aucun problème. Mais au moins...
On comprend.
Bah oui, non mais c'est vrai, d'ailleurs on est venu ici, et puis mon fils voulait faire du vélo, il m'a dit, ah, avec ton travail qui compte, ouais, non, mais on a notre lot de défauts. Mais au moins, que ce sur quoi on peut bosser, et je pense que les gens qui nous écoutent, voilà,
les
catastrophes intimes, ouais. Aidons-les à faire en sorte, et ce genre de livre aide beaucoup la traversée.
C'est un livre aussi qui est un petit peu éducatif aussi, hein, toujours, parce que je vois par exemple, il y a cette page avec les personnalités associé à la ville de Chicago. On voit qu'il y a
Barack Obama.
Voilà, il y a plein de...
Al Capone, parce qu'on a envie de donner des bonnes valeurs aux
des
enfants.
Des bonnes valeurs aux enfants, bien sûr, Al Capone. Et bien sûr.
Mais parce que les méchants existent aussi dans
la
vie.
Bien sûr, mais oui. Et puis les méchants permettent aussi de raconter des histoires. Et puis aussi les 50 mots à connaître en anglais pour un road trip réussi aux USA. Ça, j'adore. Ça m'a fait plaisir. Mes plus belles vacances, c'était il y a 25 ans. En Ford Mustang décapotable avec mon amie Sylvie dans l'Ouest américain. Et donc, j'ai retrouvé plein de mots exceptionnels. Voilà, exit, rest area, gas station. Enfin, on a tout. On a plein de mots. Et on apprend en prenant du bon temps. C'est pas en s'amusant. Enfin, si, c'est en s'amusant, en prenant du bon temps. Et ça, c'est important. Il n'y a pas cette obligation d'être éducatif. Il y a simplement un peu de transmission.
À transmettre, c'est la base.
Voilà, c'est pas... C'est pas un cahier de vacances, ce que
ah non,
voilà.
Non, il n'y a pas d'obligation. Ils vont lire à leur rythme. S'ils ont la flemme de lire, ils peuvent écouter l'histoire tout en la lisant. Et ça peut donner envie de raconter à leur tour une histoire.
Puis les enfants, il faut les prendre comme des lecteurs, à mon avis, comme des lecteurs adultes. C'est-à-dire que nous, on a envie de raconter une histoire et on ne se dit pas il faut leur apprendre l'histoire des États-Unis, l'histoire de la démocratie américaine. Ça va les saouler, en fait.
Avant toute chose, clés.
Ce qu'on veut, c'est, tout comme Claude disait, moi, avant tout, c'est une histoire d'amour et après, il y a plein de... Voilà. Ben, nous, c'est une histoire d'amitié, de liberté ou de je ne sais pas. Et après, on en met ce qu'on veut. Mais si on part dans l'idée, on va leur refaire l'éducation et tout. Non, ils vont trouver ça chiant, ils vont le jeter, le livre.
Eh ben merci beaucoup. On va préciser aussi que les très belles illustrations de Nicolas Grébil, qui travaille avec vous, donc Céline Kallmann, Benjamin Muller et Nicolas Grébil. La Cité d'Angèle, le premier tome de New York à Chicago. C'est un très beau livre. Glénat Jeunesse, et on rappelle votre podcast Encore une histoire. Merci beaucoup d'avoir fait cette petite halte par RMC. C'est déjà la fin du 45e épisode de votre podcast des livres.
C'était le meilleur RMC. Des 45.
Ah, j'en doute pas.
Le 42 était bien.
Et le 42, oui, le 2, 3. Ouais. Enfin, oui, voilà. Enfin,
ouais. Et celui-là était vraiment au-dessus.
Et c'est la fin aussi de cette deuxième saison. Merci à vous tous et toutes pour votre fidélité. Merci infiniment, Jérémy Brossard. La traversée à retrouver chez Plon.
Merci, Fred.
Merci infiniment, Claude Tovel-Posternak. La promesse de Leïba.
Merci de
à retrouver avec... chez Robert Laffont. Ce podcast est à écouter et réécouter à toute heure du jour et de la nuit sur rmc.fr, sur l'appli RMC. N'hésitez pas à partager le lien sur les réseaux sociaux, à laisser des notes et des commentaires et surtout abonnez-vous. Et l'on se quitte avec un peu de musique d'Astor Piazzolla et allez, quelques vers de Guillaume Apollinaire. J'ai cueilli ce brin de bruyère, l'automne est mort, te souviens-t'en. Nous ne nous verrons plus sur terre. Odeur du temps, brin de bruyère, et souviens-toi que je t'attends. Des livres RMC.